Volume sur 11, un podcast d'Antoine Dubuquois.
De la musique avant toute chose. Ça, c'est Verlaine qui l'est. Avec le volume sur 11, ça, c'est Spinetta. On n'a jamais autant produit de musique qu'aujourd'hui. Chaque jour, plus de 70 000 nouveaux titres atterrissent sur Spotify. Pour les artistes, c'est loin d'être simple de se faire connaître dans tout ce monde. Dans le volume sur 11, je vais à la rencontre des artistes. Dans chaque épisode, un échange pour comprendre leur processus créatif et décrypter leur univers. Il y aura du rock, de la pop, de l'électro, du métal, du punk, du rap, tous les styles. Alors ouvrez vos chakras, on commence.
Bon, bienvenue dans le volume sur 11. Je reçois aujourd'hui le duo Yatekok, mes invités, donc qui ne mettent pas le volume sur 11 a priori, puisque c'est un duo de pianistes classiques qui était plutôt du côté de Ravel ou de Saint-Saëns plutôt que celui de Iron Maiden ou Motorhead. Et pourtant, elles ont fait deux tournées avec Rammstein et sont passées de l'ambiance feutrée des salles de concert classiques à celle survolée des stades. Donc j'ai le plaisir de les recevoir dans le volume sur 11 pour qu'elles me racontent un petit peu tout, pourquoi, comment ça se passe, comment on passe du classique au métal et comment on s'en remet. Bonsoir Adélaïde, bonsoir Nairi, merci d'avoir accepté de participer à ce nouvel épisode du volume sur 11.
Bonsoir Antoine.
Alors, avant de revenir sur la tournée avec Rammstein, j'aimerais vous raconter votre parcours. Comment on arrive, après un parcours classique, et vous êtes encore vraiment dans le classique, à se retrouver en première partie d'un des groupes les plus spectaculaires de la scène métal. C'est quoi l'histoire du duo, en fait?
Ben, alors, notre rencontre, déjà avec Nairi, on s'est rencontrés quand on avait 10 ans, quand on était en 6e. En fait, on était dans le même conservatoire, on a eu la même professeure de piano. On est devenus très amis, on a commencé à jouer ensemble comme ça pour le fun et ensuite on a fait des études professionnelles en musique puisqu'on est rentrés toutes les deux au CNSM en piano solo et au sein de nos études en fait on doit jouer en musique de chambre, c'est-à-dire à plusieurs et notamment en piano 4 mains et 2 pianos, donc c'était un peu évident qu'on joue toutes les deux et de fil en aiguille en fait on a passé des concours qu'on a gagnés et qui nous ont donné des concerts et en fait on a beaucoup aimé cette formation parce que ça nous sortait un petit peu du cadre très classique du piano solo, déjà le côté un peu individuel et le côté un peu solitaire du pianiste soliste, et on a découvert beaucoup de nouveaux répertoires puisque c'est une formation qui permet de sortir un petit peu des sentiers battus. Donc voilà. Et ensuite, notre rencontre avec Rammstein, c'est un petit peu la magie de la vie, on va dire, puisque en fait, moi, j'ai déménagé à Nîmes il y a maintenant presque 10 ans. Et il se trouve qu'en 2017, Rammstein a été invité 3 dates à Nîmes, dans les arènes de Nîmes, et que leur producteur français, en fait, a eu l'idée d'une partie un peu contrastante, donc avec une pianiste sur un piano à queue. Et en fait, il a contacté le loueur de piano du coin et qui nous a recommandé. Voilà, c'est parti de là.
Aussi simple que ça. Ouais. Et alors après, donc, ce jour-là, comment ça, vous aviez répété, vous aviez joué du Rammstein ou vous aviez joué autre chose, comment le public a réagi? Parce que c'est quand même, surprenant.
Eh ben oui, non, mais c'était un moment assez incroyable parce qu'on a eu déjà beaucoup le trac. On avait extrêmement peur de la réaction du public face à notre piano et à ce qu'on allait proposer, puisque aux arènes de Nîmes, on avait eu le droit à un vrai piano à queue qui était sur la scène, la même scène que Rammstein d'ailleurs, ce qui ne sera plus le cas dans la tournée des stades. Mais donc ici, on avait un vrai piano à queue, donc acoustique, et donc on se disait comment ça va sonner dans les arènes, comment le public va réagir. Donc on a eu énormément le trac, surtout que le stage manager de Rammstein, c'était quelqu'un qui faisait peur en plus.
Il ne mettait pas en confiance, oui.
Et donc, il nous faisait un décompte en allemand avant de monter sur scène. Donc, autant te dire, on n'était pas à l'aise. Ouais. Et en fait, on est arrivé et là, je pense qu'il y avait une ferveur du public qui était tellement en attente de leur groupe, à eux que bah, forcément, ils nous transmettaient un peu de cette énergie et de cette envie. Ouais. Et donc, ça nous a porté vraiment. C'est très porteur. Et on s'est lancé. On a commencé à jouer. On a commencé à parler. On a fait le signe voilà, avec les cornes du diable. Donc, c'était vraiment... tout le monde nous a répondu. Et puis, c'est vrai qu'on avait aussi beaucoup d'amis qui étaient là et qui nous ont soutenus. Et au final, ça s'est quand même très bien passé. Et c'est passé assez vite parce que on n'avait fait qu'une demi-heure, il me semble, aux arènes de Nîmes. C'était un set qui était un peu plus court que celui des stades.
Ouais.
C'est passé très vite quand même, ouais. Au final.
Et c'était des titres de Rammstein.
Et c'était des titres de Rammstein à quatre mains sur le même piano. Voilà, il nous avait imposé ce petit détail. Donc, on n'avait pas le droit de jouer autre chose que du Rammstein. Donc, il fallait évidemment tout réécrire parce que, bon, nous, on ne connaissait déjà pas Rammstein. Quand on nous a parlé de Rammstein, on ne les connaissait ni d'Ève ni d'Adam. Et on connaissait Bernstein, mais pas Rammstein. Voilà. Et quand on a écouté, on s'est dit « Waouh !» On s'est engagé dans un truc de fou là, c'est vraiment ça va être chaud. Et puis au final on s'y est collé et c'était super.
Ouais. C'est une comment ça se passe justement d'arranger en fait des titres qui a priori n'ont pas été conçus pour être joués en acoustique ou du moins sur c'est une musique qui est je vais pas dire c'est wagnérien mais enfin, Rammstein c'est quand même un énorme son, c'est très électrique, c'est très martial on va dire. Bon, il y a quelques ballades mais
Oui, c'est vrai que ce n'est pas évident. Alors après, on s'est appuyé d'un recueil qu'ils avaient édité eux-mêmes avec du piano et de la voix, qui avait été enregistré et vendu avec la partition. Donc, on est parti de cette base-là.
D'accord.
Et c'est vrai qu'il y a des titres qui sont plus faciles à mettre en musique pour nous, en fait. Il y a des titres comme par exemple « Du hast », ça marche super bien pour Rammstein, mais pour nous, c'était difficile à retranscrire. Parce que bah là, il y avait un riff un peu permanent. Et ce qui est intéressant dans la musique de Rammstein, c'était un peu la sonorité et le côté presque électro, entre guillemets. Donc là, c'était difficile de retraduire ça. Mais des morceaux, donc des ballades, effectivement, ça marche très, très bien. Et ensuite, des morceaux comme « Mein Herz brennt », qui ont, on va dire... un bagage un peu wagnérien justement, une puissance qu'on peut retraduire au piano, ça marchait plutôt bien.
D'accord. Et alors donc ça c'était en 2017, donc après vous avez fait des dates en 2019 et en 2022. Donc en fait, comme ça avait bien marché, donc ils vous ont rappelé spontanément, comment s'est fait cette deuxième rencontre avec Rammstein, et là dans le cadre d'une tournée, une première tournée beaucoup plus importante à l'étranger.
C'est vrai que nous, on avait fait les dates à Nîmes en se disant que c'était un one shot et que c'était quelque chose d'unique. Et on ne pensait absolument pas à une suite quelconque. On n'avait pas gardé de lien particulier, en plus avec l'équipe de Rammstein. Et c'est d'eux-mêmes, ils nous ont appelés juste avant leur tournée, 2 mois avant leur tournée, 2-3 mois avant, en 2019. Ils nous ont appelés et ils nous ont demandé si on était... Ils avaient quand même eu 50 groupes qu'ils avaient passés en revue,
ouais.
Et ils n'étaient pas convaincus. Et ils se sont dit, tiens, et si on rappelait les deux petites Françaises
de
Nîmes.
Parce que c'était une première, ce qu'ils n'avaient jamais fait avant. Ça,
voilà, tout à fait.
D'accord.
Et donc, ils nous ont demandé en 2019 de faire leur tournée. Et on a accepté parce que c'était vraiment trop... c'était trop fun et trop unique pour refuser.
Ouais. Et c'était sur la même setlist. Est-ce qu'ils vous ont imposé des choses? Est-ce qu'il y avait des morceaux, je sais pas, qu'ils vous auraient proposé et vous vous seriez rendu compte que non, c'est pas possible. Enfin, c'est pas.
On était assez. Ouais, non, on était assez libre. En fait, on pouvait faire ce qu'on voulait. Là, par contre, pour les stades, ils nous ont demandé 45 minutes. Et ensuite, ils nous ont demandé quelque chose un petit peu particulier, puisque après notre passage, donc il y avait leur show, et pour leur premier appel, en fait, ils nous ont demandé d'interpréter Engel en version piano et eux a cappella, et ils nous rejoignaient sur notre scène. Et donc ça, c'est vrai que c'était un moment incroyable, un petit peu unique de pouvoir faire ça. Donc c'est la seule chose qu'ils nous ont imposé. Enfin, en fait, ils nous ont pas imposé, ils nous ont proposé, et nous, évidemment, on a dit oui. Donc Voilà.
Mais après, il y avait quand même, si, il y avait une petite contrainte, je me rappelle, en 2019, ils nous avaient quand même demandé de ne pas faire les chansons du nouvel album qu'ils allaient sortir.
C'est vrai. Ça,
D'accord. c'était. Donc, il fallait qu'on se base quand
Ouais.
même sur des chansons plus anciennes.
Ouais.
Et bah, ce qui nous allait, hein, ce qui nous convenait très bien. Nous, de toute façon, pour nous, tout était nouveau.
Ouais, bien
Donc.
sûr. Mais alors, qu'est-ce que ça fait de se retrouver parce que quand vous, je sais pas, quand vous jouez le boléro de Ravel, qu'est-ce que, enfin, du Ravel ou du Saint-Saëns, vous jouez face à un public qui est venu pour ça. Là, vous jouez face à un public de métalleux qui sont venus quand même pour des sensations, pour quelque chose d'assez extrême. Donc, bon, en 2017, ça s'était bien passé. Et avec une scénographie différente, donc en 2019 et en 2022, quand vous étiez sur votre petite scène en plein milieu du public, ça fait quoi cette sensation d'arriver, de démarrer quelque chose face à un public qui est peut-être pas forcément réceptif ou qui n'a pas encore bu toutes ses bières, enfin, comment
En
les
fait,
métalleux réagissent?
ça dépend vraiment des pays où on a joué et des villes et de l'heure en fait. C'est-à-dire que y avait une vraie différence dans les endroits où justement en juillet où les jours étaient très longs et quand on commençait à 19h en fait c'était encore le soleil, enfin il y avait le soleil et il n'y avait pas une ambiance un peu spéciale de soirée. Là je trouvais, enfin en tout cas pour moi c'était un petit peu plus dur parce que je chantais plus que les gens étaient là à attendre en fait Rammstein et qui, bon, c'est pas qu'ils n'étaient pas intéressés par ce qu'on faisait mais je chantais moins d'écoute alors que par exemple la tournée américaine où justement c'était en septembre octobre et donc à 19h il faisait nuit, il y avait de la lumière sur nous et donc il y avait plus une ambiance de concert et j'ai trouvé le public beaucoup plus chaleureux et à l'écoute. Alors après, est-ce que c'est moi cette impression que j'ai eue parce que justement il y avait la lumière et que ça me mettait plus en condition de concert, c'est possible. Mais en tout cas, on a eu des très bons retours sur les réseaux sociaux. Je pense que c'était un peu qui tout double. Soit il y a des gens qui ont adoré, soit des gens qui ont détesté parce qu'ils voulaient du gros son. Mais on a eu beaucoup de très bons retours de gens qui justement disaient le calme avant la tempête et ils ont pris plaisir à écouter les tubes de Rammstein qu'ils adorent, mais d'une autre manière. Donc ça, c'était, je pense, une bonne découverte pour pas mal d'entre eux.
En fait, ce qui est particulier, c'est que c'est un public de fans, mais vraiment des fans. Je crois que j'avais jamais vu ça autant avant, en fait. Et donc, les fans, comme disait Adélaïde, c'est qui tout double. C'est-à-dire que soit ils prennent tout ce qui passe, où il y a le mot Rammstein dessus, et donc ils prennent tout, ils veulent s'imprégner de Rammstein à 2000%. Et donc, nous, ça faisait partie du packaging, et ils prenaient, ils étaient contents. Soit ils sont tellement à cheval et puristes, comme on peut être puriste pour Wagner ou pour Beethoven, qu'ils se disent, ah mais non, mais c'est pas possible de mettre ces deux pianistes-là, qu'est-ce qu'elles nous font sur notre morceau préféré? Donc c'était vraiment, voilà, il y avait les deux extrêmes, mais globalement, on a quand même senti que ça passait plutôt bien. Parce que le producteur allemand de Rammstein, il nous a clairement dit, ça aurait pu très 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 mal se passer. Et donc, venant de lui, on s'est dit, bon, bah, finalement, ça s'est
Il y a eu des
plutôt bien
lobbies.
passé alors. Voilà. Je pense que les gens étaient intrigués finalement. Ils se disaient, mais c'était tellement, je pense que c'est tellement décalé en fait, ces deux pianos numériques là sur une petite scène en plein milieu du cagnard européen là, que les gens ils se disent, qu'est-ce que c'est? Donc, ils sont quand même plutôt curieux, on va dire.
Il y a des fans qui font plusieurs dates. En fait, j'ai l'impression que certains fans font toute la tournée. Et vous les avez retrouvés. Enfin, ils vous ont. Vous avez des fans, vous aussi?
Nous, je sais pas. Rammstein a des fans, mais nous, on en a retrouvé. Bah, il y en a un notamment, un Brésilien qui fait toutes les tournées avec toutes les dates. C'est hallucinant. On ne sait pas comment il fait, mais il le fait. Et le télétravail aidant, bien sûr. Mais il a fait voilà toutes les dates et c'est quelqu'un d'assez gentil qui nous a quand même suivis. Et voilà, mais après. Non, après les autres, je sais pas trop, non. Je dirais pas qu'on a eu des fans qui nous ont suivis.
Et qu'est-ce que ça fait de se retrouver comme quelle sensation on éprouve quand on débarque dans une arène ou un stade avec, je sais pas, quelques dizaines de milliers de personnes?
En fait, ça paraît impressionnant. Enfin, en fait, moi, quand je regarde les vidéos, enfin, nos vidéos de live, ça m'impressionne beaucoup. Je trouve ça impressionnant de voir tous ces gens. Mais en fait, en vrai, on n'a pas forcément conscience qu'il y a autant de gens que ça.
D'accord.
C'est-à-dire que, en fait, quand on est sur notre scène, déjà, on ne voit pas le stade en entier. Il y a une
Ouais.
partie qui est un peu octroyée par enfin, je sais pas, des sortes d'échafaudages ou qui tiennent la scène, enfin, voilà, du matériel technique, on va dire. Et ensuite, surtout, on a des écouteurs dans les oreilles pour avoir un clic
Ah
et
oui.
s'entendre l'une l'autre, parce qu'en fait, il y a un délai tellement fort, enfin, important avec le stade que si on jouait sans ça, en fait, on ne pourrait pas jouer. Il y a un décalage de quelques secondes. Enfin, c'est
D'accord.
impossible de jouer en s'entendant une seconde après.
Ouais.
Et ce qui fait qu'en fait, enfin, moi personnellement, j'entendais que moi et Nairi et très peu le public. Et d'ailleurs, c'était un peu frustrant parce que, curieusement, je me sentais assez seule. Alors que, bah voilà, à Mexico, il y a 60 000 personnes qui hurlent. Alors, on entendait un petit peu les applaudissements et quand on parlait et qu'on se levait, bah, on a conscience de ces gens. Mais quand
Ouais.
on joue, bah, moi, je me sentais hyper seule.
Ouais.
Voilà. Donc, c'est très curieux. Donc, en fait, je préfère
Ouais.
regarder les vidéos parce que je me dis, waouh, c'est impressionnant. Là, on voit
Ouais.
vraiment le monde.
Alors, moi,
Voilà.
c'est pas pareil parce que j'arrivais pas à mettre bien le in-ear dans mon oreille. Et donc, j'arrivais pas à m'isoler autant qu'Adélaïde. Donc,
D'accord.
j'entendais quand même le public. Et ce qui était super sympa en 2019, c'est qu'il y en avait quand même pas mal qui chantaient, en
Ah
fait. Donc, on arrivait à les faire chanter sur
oui.
quelques chansons,
Ouais.
notamment Eau de Dish
Ouais.
ou My Name's Brent. Voilà, il y avait quelques chansons comme ça où. Ils nous suivaient, en tout cas le petit groupe autour de cette scène
Ouais.
B, voilà.
Ouais. Et la sensation, alors pour justement le rappel, donc, quand vous avez les six membres du groupe autour de vous qui chantent a cappella, le public qui chante, enfin, moi j'ai vu.
Alors ça, c'est le moment le plus magique de la vie,
Ouais.
parce qu'en fait, on est dans le noir
Mmh.
et il n'y a que les téléphones portables et les
Maquillage.
briquets pour les gens qui sont un peu vintage, qui illuminent
Ouais.
le public. Et donc, c'est vraiment magnifique. Enfin, c'est très, très beau à voir. Puis, c'est marrant d'être avec les Rammstein parce qu'ils sont dans le costumé, ils ont transpiré pendant 2 heures. Et là, ils arrivent, ils sont tout mignons devant leur micro, là, en train de chanter avec nos accords de Engel.
Ouais.
C'est très sympa. Il y a un tout petit moment de complicité.
Ouais. Un moment où il n'y a pas de flamme, il n'y a pas de.
Voilà, ouais, c'est ça.
C'est presque calme en fait. Ouais. Et alors, mis à part Rammstein, bon, j'imagine que vous écoutez quand même, enfin, votre vie, c'est surtout le classique. Alors, déjà, hormis le classique, qu'est-ce que vous écoutez comme musique? Est-ce que vous êtes mise au métal ou pas du tout, ou comme ça à la marge, histoire de voir, mais.
Moi, je ne me suis pas trop mis au métal, mais par contre, j'aime bien Ultra Vomit parce qu'ils sont assez drôles. Ils font des parodies, et notamment une chanson de Rammstein, là. Je trouve
Avec
ça très
Kantar,
drôle. Ouais,
Kantar, grand Dieu.
exactement. Mais sinon, non, ce n'est pas forcément mon type de musique que j'écoute à la maison.
Moi, pareil, et c'est surtout mon chéri qui écoute du métal. Donc lui, par exemple, là, il vient d'aller voir un concert Sepultura.
Oui.
Et voilà, dès qu'il y a un groupe un peu métal, il y va quand même, il aime beaucoup. Donc, j'entends des noms, mais j'avoue que je ne les retiens pas. Je suis pas hyper non plus hyper attirée par le métal.
Ouais.
Je préfère écouter autre chose.
Ouais. Alors côté de ton classique, donc alors vos influences musicales, votre inspiration, enfin quels sont, je sais pas, vos compositeurs préférés, les répertoires dans lesquels vous êtes les plus à l'aise, qui vous fait envie, jusqu'où vous êtes prêt à aller même dans la musique, je sais pas, Steve Reich, Philip Glass ou Stockhausen, des choses comme ça.
Alors, ben, on aime beaucoup tout ce qui est 20e siècle, effectivement, et on en a beaucoup joué. On a beaucoup joué, par exemple, du Stravinsky avec le Sacre du Printemps, Petrouchka. Les compositeurs français, ça nous va très bien, comme Debussy, Ravel, Poulenc, qu'on a fait pas mal de CD avec du Poulenc dedans.
Ouais.
Voilà. Et là, c'est vrai qu'on commence un peu à aller vers les minimalistes américains. C'est un peu en projet, justement, de travailler ces pièces. Et surtout, là, les prochains projets, on aimerait faire des commandes à des compositeurs actuels.
D'accord.
Pour que justement montrer que la musique classique, ce n'est pas seulement un patrimoine musical, mais c'est aussi une musique vivante.
Ouais.
Et c'est vrai que pour le moment, on était beaucoup en mode répertoire, parce que voilà, on en a quand même beaucoup, soit à deux pianos, soit à quatre mains. Et on avait envie de les avoir dans les doigts. Et là, maintenant, on a vraiment envie de rencontre. Donc, on avait déjà commencé dans notre CD qui s'appelle Les Boys,
ouais,
de travailler avec Baptiste Trottignon. Qui avait composé une pièce à deux pianos, mais qui pas pour nous. En fait, il avait composé pour lui et Nicolas Angelich.
Ouais.
Et en fait, on les a enregistrées. C'était trois pièces qui durent à peu près 10 minutes, qu'on a beaucoup aimées. Et en fait, le contact avec un compositeur, c'est vraiment une expérience incroyable, parce qu'on voit que l'œuvre, elle n'est pas figée dans sa tête.
Ouais.
Par exemple, quand on travaille du Beethoven, du Ravel, on est là, oh mon Dieu, il a mis ce crescendo là, il a mis ce piano forte là. Donc, on est là en mode un respect incroyable du texte. Alors qu'en tout cas, avec Baptiste Trottignon, peut-être ça serait différent avec un autre compositeur, bien sûr, mais avec lui, en fait, on voyait qu'il avait écrit quelque chose avec évidemment des nuances, des indications, mais qu'en fait, ce qui comptait pour lui, c'est surtout l'intention musicale et que ça soit convaincant. Et ça, c'était une super sensation, justement, de voir comment la musique sous nos doigts, en fait, pouvait voilà, il était là, ah ça, ce motif, je n'entendais pas comme ça, mais c'est super comme ça, enfin voilà. Et c'est cette relation, ça fait que la musique a été vivante, et on a beaucoup apprécié ce moment. Donc on va tendre vers ça de plus en plus.
Il y a une sorte d'engouement là sur, je sais pas, c'est un mouvement, le néoclassique, je sais pas si on peut appeler ça néoclassique, mais des artistes comme Sofiane Pamart qui remplit les Accor Arena,
ouais.
Je sens un petit sourire. Entre la musique donc 20e siècle et cette musique un peu plus, on dirait un peu plus accessible peut-être, est-ce que ça, c'est des choses qui, ce type de projet, vous en seriez vous-même dans la composition?
Alors, ça dépend. Il y a composition et composition. C'est s'il faut jouer 2 heures de nos compositions, je ne pense pas qu'on se lancerait là-dedans. Mais on peut tout à fait composer une petite pièce de 2-3 minutes, ça bien sûr. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est pas le projet avec Adélaïde de composer, ouais, un récital entier de notre musique. Non, on est surtout interprète quand même.
Ouais.
Et là, pour Rammstein, ça a été notre premier rapport aux arrangements. Et ce qu'on a beaucoup aimé, c'est que justement, il y avait un peu un côté de composition, c'est-à-dire il y a quelque chose de personnel.
Ouais.
C'est-à-dire que dans notre CD, justement, du Yatekok Plays Rammstein, l'idée, c'est qu'on partait évidemment de la source compositionnelle de Rammstein, mais on avait envie de mettre un peu notre patte artistique. Et par exemple, dans Mein Herz brennt, il y avait deux mesures où il y a une citation de Bach, et du coup, on s'est allé vraiment dans cette brèche-là, et on a rajouté un peu de Bach à notre sauce, quoi. C'est pas du Bach, bien sûr, hein.
Ouais.
Mais voilà, on est allé dans ce sens-là. Pour Zeman, c'était du Debussy. Pour Poupeux, il y a un côté un peu Prokofiev. Enfin voilà, donc en fait, ce côté, c'était pas de la composition, ce qu'on a fait, loin de là, hein, ça reste des arrangements, bien sûr, mais c'était des arrangements très personnels.
Mmh.
Et c'est un exercice qu'on a beaucoup apprécié l'une et l'autre,
ouais,
mais qui demande beaucoup de temps. Donc il faut, ouais, aussi avoir du temps dans tous nos concerts et nos déplacements, c'est pas évident d'en trouver, mais en tout cas, on a beaucoup apprécié là. Et donc je me dis que peut-être dans quelques années, on va vouloir faire de plus en plus d'arrangements, et pourquoi pas aller vers la composition. Mais c'est vrai, comme Tinerie, on n'est pas encore compositrice.
Ouais.
Voilà. Ouais. Alors après, Sofiane Pamart, puisque tu citais Sofiane Pamart, lui, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que... Alors, c'est drôle parce que néoclassique, c'est pour nous, en histoire de la musique, qu'on apprend avec Stravinsky, puisque vraiment, il fait du néoclassicisme, avec notamment une de ses pièces qui s'appelle Puccinella, où justement, il remet au goût du jour, au XXe siècle, le côté classique. Donc, moi, ça me fait rire quand j'entends néoclassicisme avec Sofiane Pamart, parce que c'est pas historiquement, en tout cas, ce qu'on peut appeler du néoclassicisme. Mais en tout cas, il fait des jolies compositions. Après, c'est pas vers là où on va aller, mais chacun fait sa voix musicale, voilà.
Oui, bien sûr. Alors, j'ai vu qu'il y avait effectivement les citations donc, oui, de Bach ou de Bussy. Bon, ça, je suis moins connaisseur. J'ai juste reconnu la citation d'Édith Piaf dans
Ah
Falling
oui,
in
ouais, bien
Paris.
sûr.
Mais ça, c'était facile. Je crois que
Oui.
le public aussi a bien capté. Enfin, on sent sur les vidéos.
Ouais, tout à fait.
Ouais. Alors, si on reprend un petit peu votre parcours, votre premier grand choc musical à chacune, c'est quoi?
Alors, moi, c'est mon premier choc musical. En fait, c'est quand j'ai découvert les grands compositeurs en les jouant. C'est-à-dire que je ne viens pas d'une famille qui écoute vraiment beaucoup de musique. Donc, ce n'était pas la musique classique que je connais. Enfin, j'en écoutais pas quand j'étais petite. Mais mes parents m'amenaient pas forcément au concert. Mais par contre, quand j'ai commencé à étudier le piano, j'ai découvert deux compositeurs qui m'ont beaucoup marqué. C'était Schubert et Brahms. Ces deux pièces où vraiment le fait d'avoir de jouer, enfin, d'avoir cette sensation de beauté sous les doigts, là, ça m'a fait beaucoup d'émotions.
Ouais.
Et je dirais que c'est mes premiers chocs musicaux, moi.
Et moi, je me rappelle pas quand j'étais toute petite, en fait. C'est ça qui me. Parce que je suis sûre que ça devait être quand j'étais toute petite. Le premier choc vraiment musical dont je me rappelle, j'avais déjà 10-11 ans, en fait. Et c'était quand j'étais rentrée justement au CNR de Paris, rue de Madrid. En fait, ma prof, elle m'avait donné la sonatine de Ravel à travailler. Et pour moi, c'était vraiment un challenge parce que je n'avais pas forcément le niveau à l'époque pour jouer cette pièce. Mais j'étais tellement excitée de me dire, mon Dieu, elle me fait confiance, il faut que je réussisse à faire ce challenge. Et en fait, j'ai eu un tête-à-tête avec cette œuvre très, très fort. J'étais très émue, à tel point que quand je prenais le train pour rentrer chez moi, parce que je devais prendre le train à Gare du Nord, il y a même une fois où j'étais tellement dans mes pensées, en train de penser à cette pièce, qu'en fait, je suis tombée dans le trou entre le train et le quai.
Ah oui, d'accord.
Les gens, ils m'ont relevé, ils étaient là, mais qu'est-ce qui lui arrive à cette petite-là? Et vraiment, je pense que c'était vraiment, en tout cas, un tête-à-tête, parce que c'est vrai que le mot choc, tu as l'impression que tu vas être auditeur quand tu parles de
Oui.
choc musical.
Oui.
Là, j'étais plutôt dans l'action aussi
Oui,
avec le compositeur, enfin, comme disait Adé, c'est en jouant aussi que
c'est
tu as
en
des
jouant.
chocs, voilà, des chocs musicaux, quoi.
C'est ce qui fait toute la différence en fait entre les gens qui jouent de la musique et les gens qui écoutent de la musique. Je me mettrais dans la catégorie des gens qui écoutent parce que
Eh
je ne joue de rien. Alors, on va écouter Engel, donc titre que vous jouez en rappel, on a déjà parlé. Et puis après, on va passer à l'interview express. C'était Engel, un titre extrait de l'album Duo Yatekok plays Rammstein. On va maintenant passer donc à l'interview express. Alors, première question. Vous devez faire vos bagages en urgence, attaque de zombies, invasion russe. Et vous ne devez emporter avec vous qu'un seul album de toute votre collection personnelle. Alors, spontanément, comme ça, qu'est-ce que vous prenez?
Ah, c'est trop dur comme question.
Ouais, c'est trop dur.
C'est atroce.
Mais est-ce que tu peux nous donner au moins un style comme ça?
Non, ce que vous voulez, ce que vous voulez. Il n'y a aucune contrainte. C'est vraiment qu'est-ce qui vous viendrait à l'esprit? Qu'est-ce que vous diriez? Allez, là, je vais...
Ok, moi je me prends de la bossa nova brésilienne. Au moins, ça me détend. S'il y a une attaque de zombies, c'est ouais. Voilà un petit Tom Jobim, un truc, une petite base sympa.
Ouais, un peu de soleil quoi.
Ouais.
Ouais, bon, moi j'aurais dit du jazz, tu vois, Porgy and Bess avec Ella Fitzgerald et
Louis Armstrong.
Et Louis Armstrong, ouais.
Ah ouais, c'est sublime. Ouais. Ouais. Alors, si pour une raison, je ne sais pas laquelle, etc., vous ne deviez garder qu'un seul titre, une seule pièce, voilà. Est-ce que c'est, je sais pas, ça évoque un souvenir, c'est un truc. Est-ce que c'est comme la sonatine de Ravel, des choses comme ça. Mais enfin, vraiment, de toute votre mémoire musicale, ce que vous avez dans votre téléphone ou en CD ou en vinyle, je ne sais pas quoi. S'il y a un truc à garder, ça serait quoi?
Moi, je dirais la tempête m'appelle Claire de lune de Beethoven.
Ouais.
Voilà. Il y a plusieurs moments. Le premier mouvement qui est hyper connu, c'est ouais. Très calme, très magnifique. Et le dernier mouvement, c'est hyper pep, c'est presque métal avant l'heure, très rythmique. Ouais. Voilà.
Ouais. Mais ce titre-là, il faut l'emmener aussi quelque part ou c'est un titre.
Pas forcément. Ça peut être une contrainte, je sais pas. Enfin, c'est en gros un choix contraint. Voilà, il faut choisir, c'est renoncer, et il faut voilà, faut en prendre qu'un seul truc.
Il faut l'amener sur dans l'espace. Là, ils avaient fait ça. Tu sais, ils avaient envoyé des pièces, enfin des œuvres d'art qui représenteraient les humains.
Ouais.
Eh ben, écoute, je prendrais le dernier mouvement de la 9e de Beethoven, l'hymne à la joie.
Oui, très bien.
Voilà.
Ouais. Est-ce qu'il y a un titre, une pièce qui vous plonge dans une tristesse absolument insondable ou une mélancolie ou pire, quoi, une dépression complète enfin,
Ouais, moi, il y a un album de Nick Drake qui me met dans une mélancolie de dingue. Oui. C'est Five Leaves Left.
Mmh. Oui.
J'adore cet album, mais vraiment, je le trouve extrêmement mélancolique.
Oui. Moi, j'irais les Nocturnes de Chopin.
Oui. Alors, une fois qu'on est bon pour sortir de la mélancolie, pour remonter, se remettre en joie, qu'est-ce que vous écoutez?
Le concerto en sol de Ravel.
Je vais avoir plein de choses à écouter en plus.
Alors attends, juste laisse-moi 2 secondes parce que moi, pour me mettre en joie, j'avoue que j'écoute plutôt pas du classique.
Ouais.
Je dirais Camille, la chanteuse française. J'aime beaucoup son disque Music Hall. Il est marrant.
Ouais.
Ça me met vraiment en joie.
Ah ouais.
Ça donne envie de danser. Et c'est un peu foufou, ouais. C'est un peu marrant. Ouais. Ça ne se prend pas au sérieux, j'aime bien.
Ouais. Est-ce qu'il y a des styles musicaux ou des sons, des choses comme ça que vous ne pouvez pas écouter? Enfin, en tout cas, vous faites un blocage complet.
Ouais. Moi, l'autotune. L'autotune. J'arrive pas.
Ouais. C'est un sujet qui revient beaucoup, même chez les artistes non classiques, pop ou rock, ils disent ouais, l'autotune,
Rasmus. Ouais, c'est vrai que c'est pas faux.
Ouais. Alors, la question plus indiscrète quand même, est-ce que dans vos dans ce que vous écoutez, est-ce qu'il y a des choses complètement inavouables ou des petits plaisirs coupables que vous autorisez et pour lesquels votre entourage. Lève les yeux au ciel ou c'est mon Dieu, non, c'est pas possible.
Moi, j'adore Dalida. Je sais pas si c'est inavouable, mais j'assume. En tout cas, j'adore.
Moi, je ne sais pas. Alors là, franchement.
Est-ce qu'il y a des choses que tu écoutes seule dans ta voiture, fenêtre fermée, en chantant à tue-tête, en disant pourvu que personne n'écoute?
Moi, dernièrement, il y a une chanson que j'ai écoutée parce que donc j'ai une petite fille qui a 4 ans là, et demi. Et en fait, pendant l'été, quand on fait des longs trajets, on met de la musique, on doit mettre chacun un titre. Et je me rappelais quand j'étais ado de Aqua. Je sais pas si vous vous rappelez
Oui, ah
Barbie
oui.
Girl.
Oui.
Et là, pour le coup, vraiment, mon mari lui lève les yeux quand je fais cette musique, mais j'adore. Je trouve ça hyper drôle et sympa en fait.
Oui, c'est vrai, ce serait plutôt les musiques de l'adolescence, effectivement, où là on écoutait ben ouais, ce genre de musique. Je suis désolée, j'arrive pas à trouver de titre là-dessus.
Ouais. Et est-ce que vous avez, alors là, un musicien, un artiste que vous mettez au sommet de votre panthéon personnel, dites, c'est le plus grand, et ça c'est très subjectif.
Mais en tant qu'interprète ou compositeur?
Est-ce qu'il y a, ou interprète, compositeur, est-ce que...
C'est différent quand même, hein.
Oui, c'est vrai. Ben, on peut dire les deux dans ce cas.
Alors, j'avoue que moi, je mystifie plus trop les interprètes et les compositeurs, dans le sens, enfin, tous ceux qui sont un petit peu connus globalement et que j'aime écouter ou jouer, je trouve qu'ils ont tous quelque chose d'incroyable. Donc, c'est dur pour moi d'en mettre un, genre the best. On nous pose souvent la question, alors, c'est quoi votre compositeur préféré? Enfin, c'est qui votre compositeur préféré? En classique, il y en a tellement et tellement incroyable, que ce soit Bach, Chopin, enfin, les plus connus. En fait, comment en choisir un? En fait, ça dépend déjà de notre âge, d'un moment de vie, d'un moment d'écoute. Moi, j'ai beaucoup de mal à répondre à ce genre de questions, j'avoue. Mais je dirais Beethoven pour les compositeurs. Vraiment, c'est voilà, hein, c'est et je pense Pink Floyd d'une certaine manière. Je trouve qu'ils sont arrivés à un niveau justement à ce qu'on appelle musique actuelle vraiment incroyable où justement ils se permettent des morceaux très longs, ils sont un peu anticonformistes d'une certaine manière. J'aime bien.
Alors moi, j'ai une interprète que je mets toujours au sommet et elle m'étonne toujours parce qu'à chaque fois que j'écoute ses interprétations, je me dis waouh, quand même, elle est trop forte. C'est Martha Argerich. Hein. Pour moi, c'est la femme pianiste qui déchire tout, quoi. Et quand bien même on se dirait, ah, c'est du Martha, mais à chaque fois que je travaille une pièce et que je l'écoute par elle, je me dis, oh là là, mais c'est comme ça, c'est trop bien. Enfin, c'est ça, c'est comme ça qu'il faut le jouer. Et enfin, vraiment, je suis très fan. Et puis, dernièrement, il y a un album, moi, par un pianiste jazz compositeur que je mets vraiment, waouh, je trouve qu'il est trop fort, c'est Brad Mehldau. Son album Jacob's Ladder, j'ai juste adoré. Je l'écoute en boucle. Et c'est très spécial, mais je trouve qu'il a réussi à faire une fusion musicale hyper intéressante. Et ça fait pas patchwork en fait, ça sonne vraiment. Il l'a intégré quoi. C'est vraiment, il a intégré tous les styles. Il a réussi à l'injecter là dans ses morceaux et ça donne du Brad Mehldau quoi. Voilà.
Parce qu'il a fait quelques incursions dans le répertoire pop ou rock, enfin, je crois
Tout
qu'il y a
à fait.
Radiohead, des choses comme ça,
Ouais.
tout en étant aussi, en ayant des albums de jazz en trio très classiques.
Tout à fait. Et il joue même des fois du classique. Moi, je l'ai entendu dernièrement dans du Schumann. Il accompagnait un chanteur dans du Schumann. Enfin, vraiment, il touche à tout. Enfin, vraiment, il ne se refuse pas, il ne se met pas de frontières. Voilà.
Ça, c'est bon. C'est une belle phrase de conclusion, ne pas se mettre de frontières.
Ouais.
Adélaïde et Nairi, merci. Donc, merci du duo Yatekok. À bientôt sur scène pour à la fois du Rammstein, jouer donc à deux pianos
J'ai envie de dire, rendez-vous le 14 décembre à Paris, au bal Blomet.
Exactement, un peu de promo.
Voilà.
Il en faut. Alors pour conclure, on va écouter un autre extrait donc de votre album Duo Yatekok plays Rammstein. C'est chez Universal, hein, ça, c'est grosse maison.
Ouais.
plus. Hein. Ouais. Ouais, donc, c'était Onedich, qui est quand même bon, un morceau.
Le tube.
Sûr, le tube de Rammstein, le truc qui permet effectivement une bière à la main, de bramer en chœur. Voilà, c'est pas toujours très délicat, mais bon, c'est, mais en tout cas, c'est beaucoup de finesse. En tout cas, merci beaucoup. Et ben donc, à très bientôt.
Merci Antoine.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Sur 11, un podcast conçu et réalisé par Antoine Dubuquois. La musique du générique a été composée par Nezik. Pour plus d'informations ou pour écouter les épisodes précédents, retrouvez-moi sur mon site, levolumesur11.com.